Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dans la crise sanitaire que nous traversons actuellement, là où le monde est vraiment choqué, c'est pas trop quand des personnes âgées meurent, mais c'est plutôt quand des personnes jeunes meurent et, comme on dit, qui meurent avant l'âge. Et en Angleterre, quand on parle de ces choses à la télévision, plus la personne est jeune et plus effectivement cette mort est vue comme un drame inexplicable. Alors on entend dire que la personne était un jeune homme plein d'avenir qui voulait être médecin, ou bien que cette jeune fille était une jeune femme joyeuse qui était toujours prête à rendre service. Donc la mort est toujours vue comme un drame, mais elle n'est jamais vue comme un jugement. Et en fait, même si on disait que la mort est un jugement, ça provoquerait vraiment la colère du monde et sa répulsion. Donc ça, c'est la réaction du monde devant cette crise sanitaire. Le passage qu'on vient de lire présente une autre réaction possible, qui était en fait la réaction des Juifs du temps de Jésus. Donc devant, effectivement, là aussi, la mort brutale, en fait, de personnes probablement comme on dit, dans la fleur de l'âge. Il semble qu'à cette époque, l'idée qui était répandue, c'est que s'il arrivait malheur à une personne, c'est qu'il avait fait quelque chose de mal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres endroits dans la Bible. C'était la réaction des amis fâcheux de Job, qui, comme on dit, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc, ils sont allés voir Job et qui lui ont dit: Mais Job, si t'arrive des malheurs, c'est une punition de Dieu. C'est que tu as fait quelque chose de mal et donc tu es puni. Et pourtant, Job clamait son innocence. Et c'était aussi la façon de penser des disciples de Jésus. On voit ça dans Jean chapitre 9, où au sujet de la veuve de naissance, tout naturellement, ils posent cette question à Jésus qui, en quelque sorte, leur vient du cœur et disent: Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus, lui, il apporte une troisième réaction, une troisième réponse par rapport à ces drames. Et donc, il apporte une réponse sous forme de question. Il dit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Et puis il redit après: Croyez-vous que ces personnes, donc à Jérusalem, fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et ce sont comme on dit, des questions rhétoriques. La réponse est évidemment non. Et donc, plusieurs remarques. On remarque d'abord que Jésus ne nie pas que les personnes qui sont mortes dans ces deux tragédies soient des pécheurs. Il ne nie pas qu'ils soient des pécheurs. Il dit simplement qu'il n'était pas de plus grand pécheur que les autres. Ce que Jésus dit ici, c'est que tous les hommes sont des pécheurs et que le fait que la tragédie se soit abattue sur ces personnes en particulier ne prouve pas, n'indique pas qu'ils soient plus pécheurs que les autres. Et certains vont mourir dans cette épidémie et d'autres vivront plus âgés, mais ils mourront aussi. Ils mourront aussi tous un jour ou l'autre parce qu'ils sont tous pécheurs. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Jésus, d'abord, il contredit le monde qui refuse de voir la mort comme un jugement. Et puis ensuite, Jésus, il contredit ceux qui disent, comme les amis de Job: Tu as attrapé la maladie parce que tu es un pécheur. Et sous-entendu, ça veut dire: Moi, j'ai pas la maladie parce que je suis pas un pécheur. Je suis mieux que toi. Mais à ces personnes, Jésus leur dit: Tu es autant pécheur que ceux qui sont morts de la maladie. Ils sont pas pires que toi. C'est donc un premier enseignement que Jésus nous donne. Et ensuite, il nous donne l'enseignement à tirer de la tragédie. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette tragédie qu'il raconte à Jérusalem, mais aussi de cette tragédie dans laquelle nous passons en ce moment? Eh bien, c'est une mise en garde spectaculaire du Seigneur à une humanité qui a oublié que le salaire du péché, c'est la mort. Et il leur dit: Repentez-vous, sinon vous périrez tous également. Repentez-vous, sinon vous périrez tous également. Qu'est-ce qu'il veut dire par périr? Il est possible que cette phrase s'adresse dans un premier sens au peuple de Jérusalem et annonce la destruction qui va arriver en gros 40 ans plus tard, en 70 après Jésus-Christ, quand la ville va être donc détruite par les Romains. Et en fait, Jésus donc les appellerait à se repentir. Enfin, cette destruction va venir parce que ils refusent de se repentir et d'accepter Jésus comme leur Messie. C'est possible que ce soit ça, et d'ailleurs la parabole du figuier qui vient ensuite semble l'indiquer. Mais l'Église aussi a toujours interprété ce passage comme étant dans un sens plus large. Et le fait de périr, dont Jésus parle ici, c'est aussi la seconde mort. La ruine éternelle qui est donc loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et d'ailleurs en Jean 3,16, Jésus dit que quiconque croit ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Donc périr, c'est l'opposé de la vie éternelle, c'est-à-dire donc la mort éternelle. Et donc, avec cette tragédie russe, comme les tragédies qui avaient lieu à Jérusalem à cette époque, Dieu parle au monde pour le mettre en garde, et il leur crie avec un haut-parleur, il leur crie « Repentez-vous tant qu'il est encore temps, afin que vous ne périssiez pas de la mort éternelle. » Mais Dieu ne parle pas seulement au monde, il parle aussi à nous les chrétiens. Et je pense à plusieurs exemples dans la parole où les chrétiens sont appelés à se repentir dans des situations qui sont étonnamment similaires. On a en particulier l'exemple de Ananias et de Saphira. Ils étaient dans l'église et ils se sont comportés avec hypocrisie pour se faire bien voir des autres. Et Dieu les a frappés de mort en un instant. Alors, nous, on peut regarder Ananias et Saphira avec mépris, en disant « quelle honte !» Ou bien, on peut les regarder avec humilité et dire « merci Seigneur de m'avoir laissé la vie, parce que Ananias et Saphira n'étaient pas des plus grands pécheurs que moi. » On a aussi un autre exemple, on a les chrétiens de Corinthe, dont Paul nous dit qu'en fait, beaucoup étaient morts parce qu'ils avaient pris la communion sans s'éprouver eux-mêmes et sans discerner le corps du Seigneur. Et chacun d'entre nous, on peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai toujours pris la communion dignement du Seigneur dans un bon état d'esprit, notamment en pardonnant à mes frères? Et je pense que la réponse à cette question est non, et pourtant le Seigneur m'a laissé en vie. Souvent les chrétiens se disent, le repentir c'est bon, j'ai fait ça au début, j'ai coché la case. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus à l'église de Laodicée. Il lui dit « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Vous voyez, il dit qu'il aime cette église, mais qu'il châtie et qu'il appelle à se repentir. Le repentir, c'est une action constante dans la vie chrétienne, car nous péchons constamment. Le livre des Actes nous dit que, à cause de ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée, c'est-à-dire l'Église. Et il devrait en être de même pour nous dans la crise du coronavirus. Nous devrions trembler devant cette manifestation de la colère de Dieu et nous repentir. Ce n'est pas le moment pour les chrétiens de réagir avec nonchalance et avec optimisme. Peut-être qu'on se dit « le confinement, on va tout régler dans 3 mois, on n'en parle plus. » Si Dieu veut, mais s'il le veut aussi, ou s'il ne veut pas que les choses s'arrangent, peut-être qu'on n'arrivera pas à contrôler la maladie. Peut-être que les morts se multiplieront, peut-être que la crise économique se prolongera. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et je dirais aux chrétiens, où sont les appels à nous repentir en prenant le sac et la cendre, en convoquant un jeûne et en criant à Dieu de toutes nos forces et en revenant tous de nos mauvaises voies, comme le roi de Ninive, qui était un païen. Mais vous trouvez ça aussi quand vous lisez la Bible, dans la prière d'Esdras, dans la prière de Néhémie, Josias et d'autres encore. Et le repentir des Ninivites trouva grâce aux yeux de Dieu. Et ainsi nous lisons, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentait du mal qu'il avait résolu de leur faire. et il ne le fit pas. Frères et sœurs, le Seigneur a dit en 1 Pierre 4 que le jugement de Dieu va commencer, que le jugement, pardon, va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, le repentir doit commencer aussi par la maison de Dieu. Nous devons nous tenir, nous les chrétiens, devant le Seigneur, dans l'humilité. Examiner nos voies, pas avec légèreté, mais en profondeur. Nous devons rentrer en nous-mêmes, nous devons effectivement, en quelque sorte, nous calmer, réfléchir. Et nous devons demander à Dieu de nous montrer notre péché et de nous donner de nous repentir. Mais nous devons aussi nous tenir à la brèche, comme dit la parole, dans la prière pour cette humanité qui périt. C'est le rôle de l'Église. Parce que si nous, nous ne repentons pas, est-ce que le monde va se repentir? Et si nous ne prions pas, est-ce que le monde va prier? C'est le rôle de l'Église. Ça a toujours été son rôle dans toute l'histoire. C'est aussi ce rôle de celle de la terre. Mais le repentir, c'est une prise de conscience de notre péché, mais ce n'est pas du désespoir. La parole dit que, pour ceux qui ne croient pas, le repentir mène à la mort. Mais pour nous qui sommes chrétiens, le repentir ne mène pas à la mort parce que nous savons que Dieu est miséricordieux. Et nous savons que nous pouvons avoir confiance en lui, que si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Le message de Jésus à l'église de Laodicée continue ainsi et nous montre que Dieu est tout à fait disposé à nous pardonner et à nous bénir en abondance si nous nous repentons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Prions. Je vais prier, puis ensuite, nous nous quitterons. Seigneur, nous nous tenons devant toi, et combien nous avons tendance à être légers, satisfaits de nous-mêmes, nonchalants, optimistes, mettant notre confiance dans, non pas dans le Seigneur, mais dans le monde, dans la sagesse des hommes. Mais Seigneur, nous savons que tu contrôles toutes choses. Seigneur, cette crise est exceptionnelle. Et nous devons nous arrêter, nous devons réfléchir, et nous devons en tirer les leçons. Seigneur, c'est toi qui donnes le repentir. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu donnes du sérieux à nos cœurs. Que nous ne laissons pas passer cette crise avec nonchalance. Mais que ce soit pour nous une occasion vraiment de nous rentrer en nous-mêmes, de nous tourner vers toi, de nous agenouiller devant toi au trône de la grâce, et de nous repentir, et de tourner de nos mauvaises voies. Seigneur, nous avons besoin que tu fasses cette œuvre dans nos cœurs, et nous te prions pour cela. Et nous prions, Seigneur, aussi pour ce monde, et nous prions pour ce monde, notre temps, et qui périt, et ne sait pas où il va, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que cette crise soit utilisée d'une façon ou d'une autre, afin que des perdus se convertissent, et qu'ils aient la vie éternelle, et qu'ils ne périssent point. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.